Et le journal est présenté par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Emmanuel Macron poursuit le grand débat en banlieue. Il vient de prendre un bain de foule à Évry-Courcouronnes dans l'Essonne. Reportage de Steven Goyer. Au nom de la défense du secret des sources, Mediapart refuse une perquisition dans ses locaux liée à l'affaire Benalla. Explication de Rosalie Lafarge. 11 pays de l'Union européenne reconnaissent Juan Guaido comme président du Venezuela, mais l'Italie a bloqué l'adoption d'une déclaration commune dans ce sens. Analyse de Bertrand Galichet. Enfin, nous joindrons Mathilde Imberti qui a suivi le pape aux Émirats Arabes Unis. François appelle à l'arrêt des guerres au Moyen-Orient et il demande que le même droit à la citoyenneté soit accordé aux personnes de diverses religions. Évry, capitale de l'Essonne, fusionnée depuis le 1er janvier avec Courcouronnes, accueille ce soir le chef de l'État. Emmanuel Macron vient participer à son 5e débat public dans le cadre du grand débat national destiné à apaiser la crise de confiance révélée par le mouvement des Gilets jaunes. Après des communes rurales ou périurbaines, le chef de l'État a choisi pour la première fois une ville de banlieue pour rencontrer des élus et des acteurs associatifs et citoyens. Steven Goyer, vous suivez Emmanuel Macron à Évry.
Oui, le président de la République a pris la parole il y a quelques minutes pour un mot d'introduction sur le débat. Un début assez particulier avec une arrivée au milieu des rangs dans le plus grand silence, comme un instant de flottement avant un débat qui s'annonce déjà assez riche, que ce soit au niveau des élus ou des responsables associatifs, 300 personnes disposées en rond autour d'Emmanuel Macron. Eh bien, on attend beaucoup de réponses sur la politique de la ville et forcément sur la question des banlieues. Certains maires ont toujours l'impression de ne pas être entendus sur leur problématique. Écoutez Stéphane Baudet, le maire d'Évry-Courcouronnes et président de l'Association des maires d'Île-de-France.
La difficulté, c'est que le président de la République a demandé un rapport à Jean-Louis Borloo. Et Jean-Louis Borloo, c'est le plan de cohésion sociale de 2002. Et donc, un élu très respecté dans les quartiers, il a rendu un travail évidemment très cher, c'est Jean-Louis Borloo, mais en même temps avec énormément de bien fondé en son sein. Et ce rapport a été juste mis sine die à la poubelle. Donc, on a fait comme d'habitude, on a créé beaucoup d'espoir. Et puis, à la fin, c'est la désillusion. Donc, c'est vrai qu'il y a aussi ça qui revient.
Et sur les deux premières questions, par exemple, les maires ont réclamé des éclaircissements sur le maintien des services publics et le cadre de vie. Début d'une série d'échanges qui pourrait maintenant durer plusieurs heures.
Steven Goyer en direct d'Évry-Courcouronnes en Essonne avec Georges Thau à la technique. Ce matin à l'Élysée, Emmanuel Macron a reçu les présidents des groupes La République En Marche et Les Républicains à l'Assemblée. Il doit poursuivre ses consultations politiques toute cette semaine. Le chef de l'État a précisé à ses interlocuteurs ce matin que la décision d'organiser un référendum à l'issue du grand débat n'était pas prise. Cette hypothèse avait été évoquée par le journal du dimanche hier, mais plusieurs ministres ont fait part de leurs réserves, en particulier sur la date envisagée, à savoir le 26 mai prochain, le jour même des élections européennes. C'est une règle essentielle aux yeux des journalistes. Le secret des sources doit leur permettre de vérifier des faits sans mettre en danger les personnes qui acceptent de leur parler. Le secret des sources, invoqué aujourd'hui par la direction de Mediapart pour s'opposer à une perquisition dans les locaux du site d'information. Elle a été décidée par le parquet de Paris dans le cadre de l'affaire Benalla et de ses derniers rebondissements, à savoir la diffusion d'une conversation entre l'ancien conseiller d'Emmanuel Macron et son ami Vincent Crase. Alors comment cette tentative de perquisition s'est-elle déroulée, Rosalie Lafarge?
Écoutez, ils n'en reviennent toujours pas, les journalistes de Mediapart venus s'exprimer devant la presse cet après-midi. Fabrice Arfi, co-responsable du pôle enquête à la rédaction, raconte comment tout a commencé ce matin. L'équipe est en pleine réunion.
Quand à 11h10, alors que la conférence de rédaction touchait à sa fin, un procureur de la République, assisté d'une deuxième procureure de la République, puis de trois policiers, dont, excusez du peu, un commissaire divisionnaire de la brigade criminelle, on frappait à la porte du journal pour nous annoncer « Messieurs, c'est une perquisition ».
Le journaliste et ses collègues présents à ce moment-là refusent cette perquisition au nom du secret des sources et parce qu'on est dans le cadre d'une enquête préliminaire. On a le droit, assure Fabrice Arfi, qui s'étonne surtout d'une chose, la différence de traitement que la justice réserverait à Alexandre Benalla d'un côté, à Mediapart de l'autre.
Il me semble que la violation du contrôle judiciaire, le parjure devant le Sénat et l'affaire d'État que représente le contrat russe sont autrement plus importantes que de savoir qui pourrait informer Mediapart ou si la vie privée de M. Benalla a été attentée.
On veut trouver les sources de Mediapart pour les tarir. Voilà ce qu'on pense ici dans les locaux du site d'information. Maître Emmanuel Torjman est l'avocat de Mediapart.
Dans un organe de presse, il n'y a qu'un juge du siège qui peut autoriser une perquisition. C'est normal parce qu'on va sans doute possiblement pouvoir porter atteinte à une liberté qui est la liberté d'expression. Donc il faut qu'un juge, qui est le gardien des libertés individuelles, puisse contrôler si la mesure est proportionnée, adaptée ou si d'autres mesures n'auraient pas pu être mises en œuvre. Et c'est là où tout de suite on s'interroge sur l'arrière-plan politique d'une telle décision.
Une tentative de perquisition stupéfiante et inquiétante pour Christophe Deloire de Reporters sans frontières. En agissant ainsi, le parquet, dit-il, met en danger le journalisme d'investigation. Mais du côté de Mediapart, on réaffirme l'intention d'aller coûte que coûte au bout des révélations sur l'affaire Benalla.
Rosalie Lafarge en direct des locaux de Mediapart dans le 12e arrondissement de Paris avec Jérémy Tuile à la technique. Et l'on reparle de Mediapart avec le procès en diffamation intenté par Denis Baupin, l'ancien élu député écologiste, a attaqué le site d'information France Inter et Les Femmes, dont ces deux médias avaient relayé les accusations de harcèlement et d'agression sexuelle à son encontre. Des accusations qui n'ont pas abouti à des poursuites, les faits dénoncés étant prescrits, mais Denis Baupin avait choisi de riposter. Le procès en diffamation s'est donc ouvert ce matin devant le tribunal correctionnel de Paris en l'absence de l'ancien élu écologiste, ce que les prévenus ont regretté, Antoine Marette.
Effectivement, il n'y aura pas de procès de Denis Baupin et à défaut, les prévenus auraient souhaité un procès avec Denis Baupin. Mais l'ancien député écologiste a fait le choix de ne pas affronter ses accusatrices publiquement. Son avocat, maître Emmanuel Pierra, explique pourquoi.
Il n'avait pas besoin d'être là, il est parti civil, il n'est pas poursuivi. Je note qu'également Mathieu Gallet, ancien président de Radio France et qui est poursuivi comme prévenu, n'était pas là non plus. Donc il n'y avait pas d'utilité. Le tribunal d'ailleurs a considéré que ça n'était pas utile, il l'a rappelé, et qu'en droit il n'y avait pas de moyen d'obliger Denis Baupin à être là. Dans ce type de procédure, l'avocat peut suffire.
La défense a tenté d'imposer la venue de Denis Baupin en vain. Le procès se fera sans lui. Le directeur fondateur de Mediapart, Edoui Plenel, qui fait partie des prévenus, dénonce une dérobade.
Il ne fait pas face à ses victimes, qu'il essaye de transformer en accusatrices, alors qu'elles ont eu beaucoup de mal à dire les faits d'agression et de harcèlement sexuel dont il a été l'auteur. Mais par ailleurs, c'est indigne de mettre en branle la justice, de la mobiliser pendant toute une semaine, de la mettre en branle sur des actes qui sont liés à ses fonctions publiques, à la domination qu'il pouvait affirmer, et là, de ne pas respecter l'institution judiciaire, de ne pas respecter le droit de la presse. C'est une violation des droits de la défense. Parce que nous, il nous faut le contradictoire. Il nous faut mettre M. Denis Baupin face aux faits que nous avons rapportés.
Edoui Plenel qui a témoigné donc ce matin et demain, d'autres prévenus vont témoigner, notamment les 4 élus ou anciennes écologistes dont certaines ont depuis cette affaire quitté la politique.
Antoine Marette, en cette journée mondiale de lutte contre le cancer, nous nous arrêtons sur les progrès récents en matière d'immunothérapie. Il s'agit, au lieu de recourir à la chimiothérapie ou aux rayons, d'utiliser le système immunitaire des patients. C'est l'un des plus grands espoirs pour combattre une maladie qui a tué l'an dernier 157 400 personnes en France. Bonsoir Tara Schlegel.
Bonsoir.
Vous vous êtes rendue à l'Institut Curie, qui abrite le premier centre d'immunothérapie des cancers.
Oui, une centaine de chercheurs et soignants installés rue d'Ulm pratiquent essais cliniques et recherche fondamentale pour faire progresser l'immunothérapie. Jusqu'à présent, en France, on s'attaquait surtout aux points de contrôle du système immunitaire, on tentait de bloquer les molécules inhibitrices qui empêchent ce système d'attaquer les tumeurs. La réponse était efficace à 30-40% pour les mélanomes et les cancers du poumon. À présent, on développe l'immunothérapie cellulaire. On veut modifier les lymphocytes T eux-mêmes, explique Sébastien Amigorena, qui dirige le centre à l'Institut Curie. Au lieu d'injecter des médicaments, c'est la cellule qui devient médicament.
On donne aux lymphocytes T un outil de reconnaissance artificielle qui va leur permettre d'aller vers la tumeur et de la détruire.
Alors, comme si on lui donnait une arme, quoi, qu'elle n'a pas.
Exactement. C'est un lymphocyte qui est un petit peu aveugle. Il ne sait pas reconnaître la cellule tumorale et distinguer la cellule tumorale de la cellule normale. Et là, on lui donne un petit récepteur spécifique de la tumeur qui permet justement de diriger spécifiquement contre la tumeur. Et alors ça, c'est une thérapie qui marche de façon extrêmement efficace dans certains types de leucémie aiguë et de lymphome B. Et là, les taux de réponse sont au-dessus de 80%. Là encore, sur des patients très avancés qui sont résistants à tout autre type de thérapie, donc c'est un résultat remarquable, mais qui concerne malheureusement pour l'instant peu de patients parce que c'est très récent. Il y a très peu de patients qui ont été traités par des CAR T-cells en France.
Il y en a plus aux États-Unis ?
Oh oui, beaucoup plus aux États-Unis. La Chine est extrêmement active.
En France, ce traitement coûte des centaines de milliers d'euros par patient, poursuit l'immunologiste.
On prélève son sang. On l'envoie dans un centre de production de la compagnie qui va produire le médicament. La compagnie introduit une modification génétique qui permet aux lymphocytes T d'exprimer l'anticorps chimérique, cette petite arme de redirection vers la tumeur. Il renvoie le médicament cellulaire et le patient est traité dans l'hôpital d'origine.
Tout cela prend 2-3 mois, ajoute Sébastien Amigorena. Il espère étendre la méthode au-delà des cancers du sang à d'autres tumeurs solides.
Tarache Léguel. La ministre de la Santé devrait recevoir en octobre un rapport d'évaluation du troisième plan cancer. Agnès Buzyn espère disposer au premier semestre 2020 d'une proposition de stratégie de lutte contre les cancers applicable pour les années futures. Et puis la lutte contre le cancer, c'est le thème du Grain à Moudre ce soir à partir de 18h20. La réforme du prélèvement des impôts avait suscité beaucoup d'inquiétudes. Jusque-là, tout se passe bien, selon Gérald Darmanin. Le ministre des Comptes publics estime que l'entrée en vigueur du prélèvement à la source s'est faite sans bug de grande ampleur, même s'il reconnaît qu'il faudra attendre un peu, peut-être un trimestre, avant de crier victoire, Annabelle Grelier.
Au total, 38 millions de foyers fiscaux sont passés au prélèvement à la source au cours du mois de janvier, dont 25 millions de salariés qui ont découvert pour la première fois leur fiche de salaire amputée de leur impôt sur le revenu. La ligne téléphonique de l'administration fiscale qui était en surcharge en début d'année est ces jours-ci plus calme, ce qui fait dire à Gérald Darmanin que la fusée est désormais sur orbite. Oui, répondent les syndicats, mais ce n'est que la première partie de la fusée. La deuxième, moins visible, porte sur le contrôle de la collecte des entreprises, comme nous l'explique Anne Guyot-Welk de Sud Solidaire Finance.
On n'avait pas à contrôler ce reversement auparavant. On avait juste à contrôler que le contribuable déclare bien ses revenus et paie de façon correcte. Aujourd'hui, il faut qu'on contrôle que les entreprises aient bien reversé le montant qu'ils ont prélevé auprès de leurs salariés. Donc, il y a une charge de travail supplémentaire qui n'est évaluée ni par l'administration ni par le politique.
Un travail de contrôle pourtant non négligeable puisqu'il en va de l'efficacité du recouvrement de l'impôt sur le revenu et donc de la recette du budget de l'État. Un mois après le lancement du prélèvement à la source, l'État a-t-il perdu de l'argent en route? Juste un petit décalage de 20 millions d'euros, assurait le ministre aujourd'hui. Il faudra donc attendre la fin de l'année pour savoir s'il peut crier victoire ou non.
Annabelle Grelier. Puisque Nicolas Maduro a rejeté leur ultimatum, 11 pays de l'Union européenne ont annoncé aujourd'hui qu'ils reconnaissaient désormais l'opposant Juan Guaido comme président du Venezuela par intérim. Mais l'Irlande et l'Italie ont refusé de suivre leur exemple, l'Italie qui a même bloqué l'adoption d'une déclaration commune, Bertrand Galichet.
Si l'Italie bloque une reconnaissance commune par l'Union européenne de la légitimité de Juan Guaido à convoquer une nouvelle présidentielle, c'est pour une raison profondément politique. La Ligue, parti de droite radicale de Matteo Salvini, anticommuniste, espère la disparition du régime vénézuélien. Maduro est l'un des derniers dictateurs de gauche qui gouverne par la force et affame son peuple, dit-il. Son allié du mouvement 5 étoiles, Luigi Di Maio, rejette au contraire toute ingérence occidentale dans les affaires du Venezuela, le parti assure qu'il ne reconnaîtra jamais un président autoproclamé. Au-delà du cas italien, une fracture latente s'est révélée en Europe vendredi dernier sur le dossier du Venezuela lors de la réunion à Bucarest des ministres des Affaires étrangères des 28. Parmi les pays les plus opposés à une reconnaissance de Juan Guaido figurent la Grèce d'Alexis Tsipras en raison de son ancrage à gauche et la Hongrie de Viktor Orban, proche de la Russie, l'un des principaux soutiens de Maduro. Entre les pays légalistes, qui renâcle à toute intrusion dans la politique vénézuélienne, et ceux qui tout simplement hésitent, seule la moitié de l'Union européenne reconnaît Juan Guaido, nouvelle illustration des difficultés de l'Europe sur la scène internationale. Le gouvernement Maduro annonce qu'il va réévaluer les relations bilatérales avec les gouvernements ayant reconnu son adversaire jusqu'à ce qu'il renonce, dit-il, à soutenir les plans putschistes.
Au Salvador, les résultats définitifs de l'élection présidentielle seront annoncés dans 48 heures, mais les adversaires de Nayib Bukele ont reconnu sa victoire. Ancien maire de San Salvador et candidat de la coalition Ghana, Nayib Bukele a été élu dès le premier tour de scrutin hier avec, selon des résultats encore partiels, 54% des suffrages. Le futur président, qui devrait entrer en fonction en juin, a 37 ans et il se présente, Nadine Epstein, comme l'homme du changement.
Et oui, Nayib Bukele, candidat de la Grande Alliance pour l'Unité Nationale, s'affiche au centre, mettant dos à dos les deux grands partis de droite, ARENA, et de gauche, FMLN, qui depuis 1992 se partageaient le pouvoir au Salvador. Âgé aujourd'hui de 37 ans, issu d'une famille aisée d'origine palestinienne, le nouveau président a un parcours politique changeant. Il a, pendant une dizaine d'années, appartenu au FMLN, ex-guérilla, devenu formation politique à la fin de la guerre civile. ville. C'est sous cette étiquette que Bukele a été élu maire d'une banlieue de la capitale en 2012, puis 3 ans plus tard, à la tête de San Salvador. Mais en 2017, il est exclu du FMLN. Il rejoint alors Ghana, parti conservateur créé en 2010 d'une scission d'Arena. Aujourd'hui, pour gouverner, Bukele devra composer avec ses rivaux. Ghana n'a que 14 députés, tandis qu'Arena dispose de la majorité parlementaire jusqu'en 2021. En devenant le chef d'État du Salvador, Bukele prend les commandes d'un petit pays miné par la violence des gangs criminels et par la misère. 30% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Plus de 3400 meurtres, dont 500 fémicides, ont été recensés l'an dernier. Les maras, bandes de jeunes qui font régner terreur, rackets, trafic de drogue, existent bien au Salvador, mais aussi au Guatemala et Honduras, les pays du triangle du nord d'Amérique centrale. Cette violence endémique a poussé des milliers de Salvadoriens à l'exil. Le nouveau président de le mandat de 5 ans non renouvelable débutera en juin, s'est engagé à améliorer la situation pour que les Salvadoriens n'aient plus à fuir vers les États-Unis.
Nadine Epstein, le pape François est aux Émirats Arabes Unis. Il est le premier pape à mettre le pied dans la péninsule arabique, le berceau de l'islam. Devant un parterre multiconfessionnel, il a prôné la liberté religieuse et condamné la violence perpétrée au nom de la religion. Il incite tous les croyants à s'engager pour la défense des droits humains. Le pape François, qui n'a pas occulté non plus la question du Yémen. On retrouve notre envoyé spécial à Abu Dhabi, Mathilde Imberti.
Le pape n'occulte pas le conflit au Yémen dans lequel les Émirats arabes unis interviennent militairement. Hier, il avait demandé l'acheminement d'une aide humanitaire. Ce soir, un arrêt du conflit. Les religions doivent s'engager en ce sens, dit le chef de l'Église catholique.
La guerre n'amène rien d'autre que la misère. Les armes n'apportent que la mort. Ses conséquences tragiques sont sous nos yeux. Je pense en particulier au Yémen, à la Syrie, à l'Irak et à la Libye. Engageons-nous ensemble contre la logique de la force armée.
Aucune violence ne se justifie religieusement, insiste le pape François devant un parterre d'imams, de rabbins, de prêtres et les autorités des Émirats. À Abu Dhabi, dans la péninsule arabique et aux portes de l'Arabie saoudite, il consacre ensuite un long développement à la liberté religieuse.
La liberté religieuse ne se limite pas à la liberté de culte, mais voit dans l'autre un frère. La liberté est le droit de chacun. Chacun jouit de la liberté de croyance, d'expression et d'action.
Enfin, le pape François, lors de cette rencontre interreligieuse, réclame des droits égaux de citoyenneté dans tout le Moyen-Orient.
Mathilde Imberti. Une quinzaine d'ONG réclament la création d'une enquête des Nations Unies sur la détention arbitraire d'un million de Ouïghours en Chine. Ces associations s'adressent aux 47 États membres du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. La région du Xinjiang est devenue, selon elle, une prison à ciel ouvert pour la minorité musulmane turcophone et les abus sont si graves qu'ils nécessitent une action internationale. Mais aujourd'hui, l'ambiance est surtout à la fête en Asie. C'est en effet le nouvel an lunaire, la fête la plus importante de l'année. Et des centaines de millions de Chinois voyagent pour se retrouver en famille à cette occasion. L'année du chien se termine et nous allons passer cette nuit à l'année du cochon. Reportage à Pékin de Dominique André avec Shen Yanhu.
Le nouvel an en Asie, c'est comme en Europe, l'occasion d'un repas copieux avec toute la famille. À minuit pile, au moment d'entrer dans la nouvelle année, les Chinois mangent des jiaozi, des raviolis de toutes sortes, et avant ça, deux ou trois plats sont incontournables, à base de porc et de poisson. Dans l'est de la Chine, on ajoute des insectes, un régal selon Madame Li.
Ça c'est cru, c'est un bébé cigale, on l'appelle le ver d'or, c'est nourrissant. Les cigales, on les cuit dans l'huile, les sauterelles, on les fait sauter dans la poêle, c'est bio, c'est la spécialité de ma région, le Shandong. C'est très bon, vous voulez goûter ?
La star de l'année, c'est Peppa, le cochon du dessin animé anglais Peppa Pig qui raconte la vie incroyable d'une famille britannique. Un succès fou en Chine au point que l'ambassadrice de Grande-Bretagne à Pékin a enregistré une vidéo.
Je suis l'ambassadrice de Grande-Bretagne, donc je suis la représentante de la reine en Chine. Je serais ravie de vous inviter à mon domicile à Pékin. Nous pourrions boire le thé, manger des spécialités anglaises comme des gâteaux. Mini, Mi-Ai, bienvenue chez moi, j'attends de vous rencontrer.
Ça fait toujours plaisir, ceux qui sont nés sous le signe du cochon seraient gentils, honnêtes et consciencieux.
Guo Nianhao, pas sûr de l'avoir très bien prononcé, mais c'est censé vouloir dire bonne année à tous. Demain mardi, le temps sera gris et humide sur le sud-ouest. Ailleurs, la tendance sera à l'accalmie et au redoux. Les températures minimales iront de moins 3 à 4 degrés jusqu'à 7 près de l'Atlantique. L'après-midi, il fera 4 à 7 du nord-est au centre-est, 7 à 15 du nord-ouest à la Méditerranée. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.